des polars et des notes.
Salut à vous, amis de Des Polars et des Notes. Bienvenue sur Radio Évasion pour une heure d'actualité littéraire bien noire, d'interviews d'auteurs et d'éditeurs. Alors, pour ce qui est du scénario des thrillers, on a été servi ce mois-ci avec les élections américaines. C'est le Joker qui a gagné, finalement, livrant le pays à la démence et l'intolérance. Plus la peine de s'offrir des bouquins pour se faire peur. Suffit de lire la presse quotidienne pour être effrayé. Tout va bien, donc. Alors, comme à l'accoutumée, vous retrouverez toutes les références des bouquins cités dans le webzine 404. Pierre-Yves est à son poste, ou presque, Nathan aussi, signe d'un son d'excellente qualité, ou presque aussi. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur des affaires de famille, et il y en a de bien glauques, sombres, lointaines ou récentes. Les polars en sont pleins. Alors, on part d'une vallée des Alpes au Canada, des USA à la Chine ou à la Russie, un tour du monde des sales affaires dans le placard, celles qui sont coincées entre l'aspirateur et les photos de mamie. Alors, autant démarrer fort, ce sera donc avec L'homme qui fouettait les enfants, ça c'est plutôt rigolo, d'Ernest G. Gaines, qui est paru aux éditions Liana Levy. Alors, Ernest G. Gaines, c'est pas n'importe qui, son nom a été cité pour le prix Nobel de littérature. C'est un ancien ouvrier agricole de Louisiane qui a commencé à écrire parce qu'il trouvait juste que son monde n'était pas présent dans les livres. Eh bien, c'est chose faite maintenant, et très bien faite. Il raconte dans « L'homme qui fouettait les enfants » l'histoire de Brady Sims. C'est un vieil afro-américain de Bayonne, Louisiane, qui vient d'abattre son fils en plein tribunal, juste après la sentence qui condamnait celui-ci à la chaise électrique. Il faut dire qu'il avait fait un petit braquage et un meurtre. Alors, il lui a juste collé une balle dans le corps, et il a menacé les adjoints du shérif qui étaient présents. Et ils doivent juste dire à celui-ci que Brady a besoin de 2 heures avant d'être arrêté. Rien d'autre, pas d'explication quant à l'emploi de ce délai, et il est parti. Et le livre raconte l'histoire d'un jeune journaliste qui va aller recueillir l'avis des vieux, des anciens qui hantent le salon de coiffure pour se faire une idée des tenants et aboutissants de cette affaire très étrange. C'est un roman magnifique, humain, puissant, et on sent souffler le vent du sud, le racisme, l'intolérance, mais aussi le blues. Celui, par exemple, de John Lee Hooker, « Hobo Blues ».
Baby by my side, and then you know my night.
Après la Louisiane, on va prendre un petit bol d'air frais avec La Vallée des Ombres. C'est le 9e livre de Xavier-Marie Bonneau qui est paru aux éditions Bellefond. C'est une histoire de vengeance, de passage de témoins entre les générations, de guerriers vaincus. Bonjour Xavier-Marie.
Bonjour.
Alors donc, dans cette vallée, c'est la crise. Il y a l'usine qui a volé les paysans à la terre pour les recracher dans les villes. Et il y a René Vasseur qui revient après 20 ans d'exil.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est une histoire un peu de roman très noir. Hein. C'est le roman de l'exode rural. C'est le roman de ces enfants qui ont quitté leur montagne pour aller à l'usine. Et René, c'est le petit-fils. C'est-à-dire c'est celui qui a grandi là et qui connaît aujourd'hui le chômage, qui connaît ces choses-là. Et qui pour fuir tout ça, pour fuir sa condition, n'a rien trouvé de mieux que de s'engager à la Légion étrangère. Voilà.
Et il revient avec la Légion d'honneur, et justement il est parti parce que son grand-père lui-même avait eu la Légion d'honneur parce qu'il avait été abattu.
Il y a dans ce moment tous les fantômes des générations passées, hein, de toutes les guerres passées. Il y a la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre d'Algérie aussi. C'est un être qui est marqué par ça, et pour être un héros, mais pour aussi changer d'identité, c'est important, puisque la Légion permet de changer d'identité, de s'engager sous une identité déclarée, il change d'identité pour fuir ce qu'il a toujours cru être son
destin.
C'est-à-dire, oui, voilà, son mauvais destin. En se choisissant notre destin, il se trompe en fait. Quand on fait la guerre, on se trompe toujours.
Mais dans votre livre, j'ai l'impression que c'est aussi un passage de témoin. C'est-à-dire que René, il revient pas n'importe comment, il revient quand son père va mourir. Et c'est un peu la course de relais des générations.
Ah ben, il revient à un moment où c'est très, très compliqué pour lui, parce que son père, c'est sa dernière famille. Et en fait, il le connaît mal, puisque on ne peut pas tout dévoiler, mais il le connaît forcément mal, puisque son père l'a toujours rejeté. Et c'est effectivement, il vient pour reprendre un flambeau qu'il n'aurait jamais aimé reprendre, en fait, puisqu'il est le dernier. C'est le dernier des Vasseurs. Voilà, donc il est un peu perdu dans son destin. Il a raté, il a quasiment tout raté. Donc il essaie de venir se venger, mais on peut pas tout dévoiler dans un roman. Mais cette vengeance, elle est indissociable de sa vie.
Non, on peut pas tout dévoiler. On peut quand même dire que c'est quand même une race. Les Vasseurs, c'est un peu une race de guerriers vaincus. C'est le père, il était syndicaliste, mais l'usine, elle est plus ou moins fermée.
Il a perdu cette guerre-là, oui.
Ouais.
Il a perdu la guerre d'Algérie aussi.
Oui, le grand-père a été fusillé, mais il n'a pas vu la libération. René.
Mais lui, c'est un héros, le grand-père, par contre. C'est la gravure du héros, si je puis dire. C'est le véritable héros. C'est celui qui a résisté, qui a donné sa vie pour une cause noble. Et son fils a voulu lui ressembler en étant syndicaliste. Et quelque part, c'est pas lui qui a tout raté, c'est toute une époque qui a tout raté. Et puis, il y a le petit-fils qui, lui, cherche un peu à ressembler à tout le monde, mais qui n'y arrive pas. Parce que c'est difficile de grandir entre des personnalités aussi écrasantes.
Et pourtant, ils se ressemblent beaucoup.
Oui, bah oui. Bah oui, parce qu'ils ont, si je puis dire, ils ont le combat dans le sang, quoi.
Et en même temps, il va retrouver, en revenant, il retrouve Samia, son amour impossible de jeunesse.
Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas allé chez la Légion étrangère par hasard. C'est-à-dire, il a quand même fait des conneries. S'il aurait pu s'engager dans n'importe quel autre régiment, il aurait pu faire n'importe quelle autre guerre. Il a fait celle-là parce qu'il a quand même fait des bêtises. Tout ça pour exister auprès de son père, qu'il a toujours nié. Et donc il a sacrifié son amour de jeunesse et il va le retrouver. Mais malheureusement, le temps a passé. 20 ans, c'est long, c'est très long.
Et il s'engage aussi parce qu'il a toujours peur.
Oui. C'est fréquent chez les héros d'avoir peur. Très fréquent. C'est-à-dire que c'est souvent les gens qu'on croit les plus courageux sont en fait ceux qui ont peur et qui savent, qui apprennent un jour à dominer cette peur et à la retourner. Mais lui, effectivement, il a peur, il a toujours eu peur. Même dans les moments les plus difficiles.
Et il s'est comporté comme un héros. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous passé toute leur vie à s'apercevoir qu'ils se ressemblaient. tout en le refusant.
Ben, on refuse toujours quelque part son destin. Quand on n'est pas capable de le bâtir vraiment, des fois on l'accepte parce qu'il nous convient. Et puis des fois on le refuse. Parce qu'il nous convient moins et eux, ils ont choisi sans choisir. S'engager à la Légion, c'est pas toujours un choix, c'est parfois une obligation. Parfois une fuite, parfois un changement d'identité.
Mais ce qu'il
changer d'identité, ça veut dire être notre. Être notre par contrat.
Mais ce qui décrit très très bien, René, c'est qu'en plus, il a perdu son nom, mais qu'en fait, il n'a jamais perdu son identité vraiment profonde.
Ah non, l'identité profonde, votre personnalité, vous la perdez jamais. Psychologiquement, on change très peu, en fait, tout au long de sa vie.
Et c'est comme ça,
il l'a pas perdu. Il croyait être un autre, il a jamais été. Les gens qui mènent ces carrières militaires, ils sont des autres par contrat. Être un homme par contrat, c'est-à-dire ils signent un contrat de 5 ans, la première année, la première fois, et pendant 5 ans, ils sont sous une autre identité, c'est obligatoire, enfin pour les Français c'est obligatoire, et ils sont autres, mais en fait ils sont jamais vraiment autres. Mais l'armée, la Légion étrangère, les saisit, ça s'empare d'eux, les entraîne de telle manière, les fait dormir de telle manière, les fait vivre de telle manière, qu'il nie cette personnalité qui est en eux. Mais tôt ou tard, elle ressort.
Et elle ressort quand il revient au pays.
Dès que vous sortez de là, ah ben oui, elle ressort. Ouais.
Elle ressort quand il revient au pays, parce qu'en fait, rien n'a bougé. Dans la vallée, c'est comme si un peu les montagnes autour empêchaient les histoires de ces vallées.
Oui, c'est un monde clos. Hein. C'est métaphorique, la vallée. Hein. C'est comme dans l'âme de pierre, j'ai voulu un décor métaphorique. C'est-à-dire ce décor où tout se passe à l'intérieur, rien ne sort, tout bout. Mais il y a comme un couvercle de fumée par-dessus. Effectivement, quand tu reviens chez lui, ben, tout est resté intact. Les fantômes sont là, les ombres sont là. La vallée elle-même, elle a changé. La moitié des gens sont partis, le reste est au chômage. Voilà. Donc la vallée a changé, mais lui-même n'a pas changé et les ombres sont toujours là.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier Marie. Donc, je rappelle le titre, c'est La Vallée des Ombres, c'est paru chez Belfond. Et c'est un roman très, très noir de vengeance familiale et de crise sociale. On va se quitter avec un titre de The Clash qui est écouté dans le livre qui s'appelle Rock the Casbah. Merci beaucoup, Xavier Marie. Au revoir.
Au revoir.
Après Rock the Casbah, ce sera le moment du roman à Dancefloor. Et pour une fois, ce ne sera pas du tout un roman. Bonjour Dancefloor.
Bonjour Patrick.
Alors, c'est quoi donc ?
Eh bien, en fait, c'est un roman graphique qui s'appelle Winter Road de Jeff Lemire chez Futuropolis. Et donc, ça tombe bien avec ton thème, c'est ça ?
C'est des affaires de famille.
Ouais, voilà, c'est une histoire de famille. Parce qu'en fait, il s'agit d'une famille dysfonctionnelle avec un père alcoolique, violent, qui frappe sa femme et qui pousse son fils, qui fait du hockey, à être extrêmement violent et à frapper les autres joueurs, par exemple.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un bagarreur.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que pour être un homme, il faut s'affirmer en frappant les autres, tu comprends ?
Ouais, ouais, mais c'est un poste spécial au hockey. C'est vrai ? C'est vrai.
Bah oui, c'est ça. Mais seulement, voilà, il le fait un petit peu trop fort et il finit par laisser un des joueurs pour mort sur la glace et ça le conduit quand même à vivre une vie un petit peu disloquée par la suite. Il a une sœur aussi qui reproduit les mêmes difficultés que sa propre mère en se droguant et puis en se mettant avec un homme qui la frappe, à tel point qu'elle finit par s'enfuir et retrouver son frère, donc... Alors, ce qui est intéressant, c'est d'une part le fait qu'il y ait une reproduction comme ça de la violence familiale, qui a l'air, tu sais, un peu héréditaire. On sait ce qu'on a vu faire. Mais en même temps, dans ce roman, ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'en sort. Parce qu'en fait, il y a deux personnages qui vont jouer le rôle de père de substitution pour Derek et Beth. Et qui vont les aider justement à briser ce cercle et à trouver autre chose, en fait, à se libérer vraiment de cette espèce d'atavisme familial qui les a enfermés jusque-là.
Et c'est une BD très très noire, mais c'est une BD aussi qui est grosse comme un roman.
Voilà, exactement, et à 280 pages, c'est très très gros, et c'est aussi très très beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup le dessin. Et il y a des flashbacks, comme dans un vrai roman, qui sont en couleur, alors que le reste est plutôt en bleu, noir et blanc.
Comme au Canada, quoi.
Voilà, exactement. Bah oui, c'est la nuit tout le temps et beaucoup de neige. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Il y a aussi un petit quelque chose sur le fait qu'il y ait des Indiens, quand même, au Canada. On a tendance à l'oublier.
Oui.
Et leur mère, en fait, était indienne dans une réserve.
Indien, alcoolique, drogué, tout va bien.
Ouais, voilà, c'est ça, t'as un petit peu le trio gagnant, là, ouais, exactement.
Jusqu'à la rédemption. Oui, jusqu'à
voilà,
la rédemption.
Sort. Ouais.
Et donc, ce roman t'a fait penser à une musique de Nick Cave.
Oui, c'est ça.
Et qui est donc
Nick Cave and the Bad Seeds, et c'est Up Jumped the Devil.
Merci beaucoup, Dancefloor.
Je t'en prie.
Au revoir. Claim on me.
start. The doom to play the villain's part. I was the baddest Johnny in the apple. Caught my blood was blacker than the chambers of a dead nun's heart. But who's that milling round the courthouse steps? Nail on my face to the hitching fence. Who's that milling round the courthouse steps? Up jump the devil and off we crept. Safer from the lynching rope. Who's that yonder laughing at me like I was the brunt of some hilarity? Who's that yonder laughing at me? Well, I'll jump the devil. One, two, three.
Après un café très très noir et serré dans Black Coffee, Sophie Loubière a mis du lait en plus de l'arabica dans son stylo et revient avec White Coffee paru chez Fleuve Édition. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors vous êtes un peu une consoeur parce que vous chroniquiez des polars dans Info Polar et Parking de Nuit.
Oui, alors les polars c'était surtout sur France Info, dans la petite chronique effectivement, Info Polar, où j'avais vraiment un grand plaisir à, en quelques petites minutes, hein, je crois que la chronique devait faire autour de à peine 2 minutes, de résumer à la fois l'intrigue, de donner des ambiances, des extraits, de donner envie de lire un polar. Et dans Parking de Nuit, qui était la version nocturne de Dernier Parking avant la plage, une émission estivale, je donnais envie de lire tous azimuts, c'est-à-dire qu'on était à la fois sur de la littérature générale, mais aussi des livres de cuisine, des interviews cinéma. C'était un peu l'émission foutraque et foutoir et un peu visionnaire où voilà, on s'évadait totalement pendant une heure au travers, en règle générale, des livres.
Et c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ?
Ah non, 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 l'écriture, elle vient très très tôt dans ma vie. Mes premiers écrits sont à l'adolescence, avec des difficultés liées au fait que je ne croyais pas du tout dans ma capacité à être un jour écrivain, puisque j'étais très mauvaise étant petite à l'école, enfin mauvaise en orthographe.
Hein. Oh, comme beaucoup.
Voilà, bonne en tout, mais mauvaise en orthographe et en grammaire et conjugaison, pour une raison bien simple, c'est que on l'a ignoré jusqu'à mon passage en CM2, où ça a été diagnostiqué, j'étais dyslexique. Et à l'époque, dans les années 70, c'était pas du tout quelque chose de courant. Il n'y avait pas de méthodologie et on commençait seulement à voir des orthophonistes s'occuper des enfants. Et donc pour moi, ça a été vraiment le parcours du combattant et je pensais plutôt être un jour actrice à Hollywood. Ça me semblait beaucoup plus faisable que d'être romancière. Voilà, donc l'itinéraire de l'écrivain a commencé très tôt, donc avec des petits carnets dans lesquels j'écrivais soit mes pensées, soit des poèmes, soit des ébauches d'histoire. Étant une très grande lectrice, ce sont les livres qui m'ont nourrie, qui m'ont permis un jour d'envisager l'écriture. Et mon premier roman a été publié en 99. Et bon, je faisais déjà de la radio depuis un certain temps, mais voilà, ce n'est pas l'émission qui m'a donné envie d'écrire, mais elle m'a nourrie, évidemment, de tout ce que j'ai pu lire.
Et pour en revenir à White Coffee, là, vous mettez, il y a carrément, pour moi, il y a deux livres en un. Il y a deux intrigues, deux affaires. Il y en a une très intime et psychologique avec Lola et son futur ex-mari, et une plus classique. Un peu à la Agatha Christie, à la Conan Doyle avec Desmond Blur.
Oui, tout à fait. C'est l'idée de White Coffee après Black, hein, qui était vraiment un road trip sur la route 66, où il faisait très très chaud, ça se passait l'été. On passait de la noirceur de cette chasse d'un tueur en série à la blancheur de l'hiver. Et sous l'apparente blancheur aussi, on peut imaginer voir la blancheur d'un spectre. On peut voir aussi la blancheur de faux sentiments, ou dans le blanc, le froid, c'est-à-dire le sentiment qui s'est éteint dans la relation entre Lola et son ex-mari. C'est tout à fait ça, oui. Il y a à la fois le combat d'une femme pour essayer de se libérer d'un mariage qu'elle traîne comme un boulet derrière elle depuis 5 ans, depuis que son mari l'a abandonnée, tout simplement.
Et il l'a abandonnée sur une aire d'autoroute, quoi, dans un motel complètement paumé. C'est dur.
Oui, c'est ça. C'est quand même assez traumatisant. On se met assez facilement à la place de cette mère de famille. Enfin, moi, en tout cas, puisque ayant fait la route 66, cette scène qui est dans Black Coffee a été inspirée par un moment que j'ai vécu avec ma famille à Williams, donc sur la route 66. Un matin, mon mari était parti à la laverie du coin pour laver le linge de la famille, puisqu'on était depuis 4 semaines sur la route. Et je ne le voyant pas venir, j'ai donc quitté le motel où mes enfants attendaient. Il fallait absolument partir, il était minuit, on devait quitter la chambre depuis 1 heure. Et arrivant à la laverie, je ne le vois pas. En revanche, je vois le sac de linge dans un coin qui attend. Et je me demande, j'ai vraiment eu un moment de grande peur. Je me suis dit, mais où est passé mon mari? Et à partir de là, j'ai imaginé ce qui pouvait être, et si c'était vrai? Et si mon mari ne revenait pas?
Il n'est pas parti donc, avec un serial killer quand même?
Non, pas du tout. Il était parti se promener dans la ville à la recherche de boutiques d'antiquité, parce que mon mari est antiquaire. Voilà. Donc il est revenu, mais il n'était pas joignable. Son téléphone sonnait dans la ville. Enfin, c'était quand même, j'ai vraiment balisé pendant une bonne heure. Et donc Lola, elle est dans cet état d'esprit-là de suivant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu son mari depuis 5 ans. La dernière fois qu'elle l'a vu, il disparaissait dans une laverie. Donc c'est assez difficile pour elle d'essayer de reconstruire quelque chose dans ce traumatisme vécu, et puis le fait que de toute façon le couple battait de l'aile, et puis elle a rencontré Desmond, évidemment, donc voilà.
Et elle est couverte de dettes.
Et oui, Pierre, la raison pour laquelle Pierre Lombard avait quitté Lola Lombard, et quitté surtout sa famille, c'est en fait il s'était surtout quitté lui-même et tous les désastres qu'il avait accumulés au cours de sa vie derrière lui, dont un désastre financier dans lequel Lola s'est retrouvée totalement aspirée en bourbe. Oui.
Donc White Coffee, c'est aussi le grand écart entre Nancy, donc, où vivent Pierre et Lola surtout, et où Pierre la rejoint, et New York, enfin les États-Unis, où reste Desmond en attendant de rejoindre Lola. C'est un peu un grand écart, c'est le trio, la femme, le mari et l'amant, mais avec des milliers de kilomètres entre les trois.
Oui, c'est quelque chose qui est, c'est un trait assez commun à mes romans, c'est que le personnage masculin principal, en l'occurrence Desmond, dans cette trilogie, puisqu'en fait il va y avoir un prochain volet, c'est de le mettre dans un empêchement continuel, perpétuel. Déjà dans Black Coffee, on avait cette situation, puisque à un moment Lola part toute seule sur la route avec ses enfants et Desmond n'est pas en capacité de la suivre. L'empêchement est vraiment un thème qui est intéressant à travailler parce que ça amène évidemment beaucoup de suspense. Oui. Dans Black Coffee, le prédateur, entre guillemets, est facilement identifiable. C'est le tueur. Cet homme qui sème des cinquantaines de victimes sur la route 66 des années 60 à nos jours. Dans White Coffee, le prédateur est beaucoup plus, on va dire, subtil ou inattendu.
Presque paranormal.
Oui, alors en fait, c'est pas du tout celui auquel vous pensez. Pour moi, le prédateur, c'est Pierre.
Oui.
Le prédateur, c'est l'ex-mari qui revient et qui risque de faire imploser sa famille, qui met en grand danger des membres de sa famille. Je peux pas précisément dire lesquels, mais...
Ah non, non.
Voilà, mais c'est un peu une métaphore, c'est-à-dire que aujourd'hui dans la littérature policière, c'est très facile d'évoquer et de travailler sur la figure du tueur en série. J'avais envie de le faire parce que c'était un défi aussi, bien que ça m'agaçait fortement au départ, mais c'était un défi que je m'étais donné, et d'imaginer un tueur qui soit très très différent de ceux auxquels on est habitué, et notamment un tueur qui ne viole pas ses victimes. Ça c'est un point absolument indispensable chez moi. Jamais vous ne verrez évoquer cet aspect des choses que je le viole est quelque chose qui me révulse. Je trouve qu'on le banalise trop, et en littérature et au cinéma et à la télévision. Donc c'est mon là petite parenthèse sur mon combat. Mais dans White Coffee, le prédateur, il est à côté de chez vous. Il est même peut-être dans votre famille.
Et il est puéril. Il est très très puéril surtout.
Je sais pas s'il est puéril. Je pense pas que c'est quelqu'un de très sincère, Pierre. C'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir par tous les moyens. Il pense, en revenant en France, pouvoir tout reconstruire, recommencer à zéro. Simplement, il est profondément égoïste parce qu'il ne voit que midi à sa porte. Il n'imagine pas dans quelle situation il met sa femme. On peut pas reconstruire des choses qu'on a brisées définitivement. Alors lui a cette illusion-là. Très sincèrement, il essaye de faire les choses. Mais bon, il est profondément maladroit et il va toujours vers la personne qu'il faut pas. Donc, on l'a vu dans Black Coffee. Mais ce entre guillemets, ce prédateur-là, c'est-à-dire l'homme qui peut détruire une femme et toute sa famille, eh bien, je pense que c'est une figure contemporaine, très banale, que je vois partout sur les réseaux sociaux, suivant des témoignages de femmes qui parlent de leur ex-mari qui est en train de détruire et leur vie et celle de leurs enfants. Et l'inverse est également le même, puisqu'il y a aussi des femmes, des ex-femmes, qui mènent une vie épouvantable à leur ex-mari, qui les rend dingues en les privant de leurs enfants, en racontant des choses sur eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on cherche des prédateurs, c'est pas la peine d'aller sur la route 66 pour les tuer, ils sont à côté de chez nous.
C'est un peu le pervers narcissique, quoi.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il fait du mal aux autres, presque malgré lui, et il ne comprend pas que tout le monde n'adhère pas à ses projets, à ses idées. Et Pierre est plutôt maladroit que méchant ou stupide. Il n'a rien de stupide, c'est quelqu'un de malin, je pense.
Vous décrivez aussi quand même la fascination des médias, de la sphère du showbiz pour tout ce qui est serial killer. Quoi. Pierre, il remet facilement le pied à l'étrier parce que tout le monde est fasciné par son aventure avec le tueur en série.
Oui, mais je crois que c'est le cas de pas mal de personnes qui ont touché, qui ont été dans la lumière. On voit souvent des gens qui ont fait de la télé ou de la radio avoir ce besoin de revenir vers le public, de revenir sous les sunlight. Et on voit bien que Pierre, c'est quelqu'un qui a fait partie d'un groupe qui a eu beaucoup de succès dans les années 80. Puis le groupe a périclité et s'est retrouvé un petit peu dans l'anonymat. Alors après, il est revenu de nouveau au devant de la scène parce qu'il est devenu un journaliste un peu coté. Et puis tout ça, de nouveau, a capoté. C'est quelqu'un qui fait en permanence des allers-retours vers la lumière, vers les sunlight. Et le fait qu'il revienne des États-Unis avec un récit hors du commun sur un tueur en série, évidemment, il sait qu'avec ça, il peut se refaire du pognon et il peut se retrouver sur le devant de la scène. Et il a besoin de ça. C'est quelque chose dont il ne peut absolument pas se passer, Pierre.
Oui, il n'existe que comme ça. Et je voulais vous demander, par rapport à Desmond, c'est normal que son cadavre, le corps qu'il trouve, il s'appelle Bismuth ? Je sais pas, ça m'a fait penser à des trucs, moi.
Ça vous a fait penser à quoi ?
Paul Bismuth, je sais pas, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps. À propos de... C'était le pseudo de Sarkozy.
Ah bon ? Alors là, c'est peut-être inconscient de ma part, mais...
je ne sais pas, l'histoire des écoutes, des téléphones.
Paf, c'est vrai.
Bismuth, il meurt, ouais. Dis donc.
Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où j'ai trouvé ce nom, d'ailleurs. Il faut que je vérifie, parce qu'en fait, je me suis fait... je travaille toujours avec des noms de personnages qui ont une signification.
Le coup, il en avait une.
Par exemple, Desmond Blur. Blur en anglais, ça veut dire brouiller, rendre flou, troubler. On a par exemple Amelia Wegg. C'est la petite bibliothécaire. Wegg, ça veut dire la voie en allemand. Enfin, la voie, la direction, le bon chemin. Un personnage qui s'appelle Samuel Haas. As, ça veut dire lièvre en néerlandais. Donc c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à attraper, qui se cache. Voilà, tous les personnages ont des noms qui ont des sens. Jacob Fischer, et bien son nom en allemand, ça veut dire pêcheur. On peut pas. Voilà, tout. Il y a toujours des significations cachées. Alors Bismuth, là, en revanche, je ne sais plus, mais bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien votre idée, là.
Je ne sais pas, ça m'a sauté. Comme Robert Wyatt pour Pierre, c'était le pseudo de Pierre quand il était aux États-Unis. Et Robert Wyatt, ouais. Il était paraplégique, il était en fauteuil roulant.
Il est toujours.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais,
bien
ouais.
Sûr.
Et en fait, bon, on ne peut pas trop parler de ce détail-là, mais il est vrai que Robert Wyatt est quelqu'un est un artiste qui m'a toujours beaucoup fasciné et intrigué, fasciné par son talent, sa voix hors du commun, qui est à la fois d'une douceur et d'une une sensualité infinie. C'est un grand poète aussi, et il a eu un combat incroyable. Cet homme s'est jeté par la fenêtre d'un appartement un soir où il y avait une fête, où il avait un peu abusé de certaines substances, et donc il s'est retrouvé en fauteuil roulant. C'était le batteur, je crois, du groupe Soft Machine.
C'est ça. Et Matching Mall après.
Voilà, qui avait énormément de succès. Et il s'est retrouvé, immobilisé sur son lit d'hôpital. Et c'est là qu'il a écrit son premier album solo, qui est une splendeur. Et il est vrai que Robert Wyatt, est arrivé très vite sur Black Coffee, et notamment l'idée que Pierre, admirateur de Soft Machine, avait décidé d'utiliser ce nom comme pseudonyme. Simplement, voilà, on n'a pas le droit de toucher à certains dieux, et c'est presque profane, voilà. Ouais. Et sans doute qu'il y a une punition divine qui fait que Pierre, le fait d'avoir emprunté ce pseudonyme va le payer très cher.
C'est bien ce qui me semblait aussi. Il y a de la musique partout dans le livre. Ça, c'est une merveille. Une dernière question. La couleur du prochain café ?
Il sera rouge. Bloody Coffee. Rouge comme, non pas forcément le sang, c'est-à-dire le meurtre, l'hémoglobine, mais par rapport à la filiation, puisqu'il sera question beaucoup de filiation dans Bloody Coffee, le dernier volet de la trilogie.
Eh ben voilà, on a notre scoop. Oh, merci beaucoup, Sophie Loubière. On va se quitter avec Peggy Lee, qui est présente dans votre livre et qui chante Black Coffee, évidemment.
Ouais, super. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around.
Peggy Lee, Black Coffee, et on repart en Chine avec Hong Kong Noir de Shan Ho-kei qui vient de paraître aux éditions de Noël. Hong Kong Noir, c'est 6 polars pour le prix d'un, 6 enquêtes pointues, malignes, imprégnées de l'atmosphère unique de Hong Kong et de ses différents visages qui sont façonnés par l'histoire entre la colonisation anglaise, la reprise en main par la Chine communiste. C'est, le roman est en chronologie inverse, c'est-à-dire la première affaire se passe en 2013 et la dernière, qui est donc la première, en 1967. Alors, il y a un fil rouge entre ces 6 enquêtes, c'est un flic hors du commun, l'inspecteur Quan Chun-dok. C'est une légende de la police locale qui est surnommée le divin détective. Ce flic, c'est un concentré de Maigret, de Sherlock Holmes et de Harry Bosch. Il connaît sa ville, il sait surfer sur les pouvoirs en place, activer des réseaux, sentir la faille, enfin tout. C'est vraiment le mec super bien. Et en plus, il a une idée fixe, c'est que la justice est quand même possible malgré tout ce qui se passe. Alors l'âge aidant, il devient conseiller de la police, mais il a formé la relève en la personne de l'inspecteur Locke, qui est son digne héritier. Moi, je vous le recommande fortement, c'est une vraie révélation, c'est Hong Kong Noir. Alors, il n'y a pas vraiment de musique indiquée dans le livre, mais par contre, on raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait de la cantopop. Donc, on va s'écouter Twins Songs for Losing Love.
Thank you.
Le coin des éditeurs maintenant, et en l'occurrence ce sera le coin des éditrices avec Sophie de la Marinière qui vient nous parler de Mirobol Édition. Bonjour Sophie.
Bonjour Patrick. Et alors, bonjour à son équipe que je ne connais pas malheureusement.
Oh, nombreuses.
Sûrement. Comme chez nous Patrick.
Il y en a partout. Donc vous êtes une ancienne de chez Michel Lafon.
Eh oui, c'est vrai, oui, tout à fait.
Et comment on se décide tout d'un coup? Comment on se dit, tiens, tout d'un coup, moi, je vais ouvrir ma propre boîte?
Ah ben déjà, on était deux à l'époque. Bon, maintenant, je suis toute seule, mais on était deux à l'époque. Donc, c'est vrai que pour la démarche de prendre cette décision, c'est vrai que c'est plus motivant. Moi, je suis assez admirative des personnes qui décident de se lancer tout seul dans l'aventure de l'édition en solo, parce que c'est vrai que c'est objectivement assez compliqué. Et surtout, il faut l'énergie, il faut y croire, il faut... parce qu'on passe quand même par beaucoup de moments de doute. Et voilà, du coup, ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé au début d'être à deux. Ben, en fait, c'est une décision personnelle de quitter Paris pour rejoindre Bordeaux. Le constat que, qu'en province, les maisons d'édition, il y en avait beaucoup moins et que du coup les perspectives d'embauche étaient vraiment rarissimes. Et donc pour continuer dans l'édition, pour continuer dans cette passion, la seule piste c'était de créer sa propre maison d'édition. Et puis d'autre part, en tant que lectrice, je trouvais pas forcément les livres qui me faisaient vibrer. J'avais l'impression d'avoir fait le tour des polars. Et pour vous parler d'une des collections de Mirobol, la collection Polar. Et du coup voilà, enfin ça s'est fait de façon un petit peu naturelle, un petit peu longue cela dit, mais voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit.
Alors la collection Polar, c'est Horizon Noir et c'est du 100% étranger.
Exactement.
Plutôt est.
Je vous arrête, nous avons un auteur français.
J'allais vous demander.
Qui est publié tout à fait dans la collection Horizon Noir. Il s'appelle Guillaume Chérel et il a sorti là en septembre « Un bon écrivain est un écrivain mort ». Cela dit, beaucoup de libraires l'ont mis sur les tables de rayons de littérature générale et non pas seulement en polar, puisque au-delà d'un polar, c'est un pastiche de romans policiers qui en fait traite de littérature et s'amuse à désinguer les écrivains. Voilà, c'est un huis clos entre écrivains qui se tuent les uns les autres. C'est super.
Alors, la ligne éditoriale de Mirobol Édition, pour être publiée, on a un auteur de polar, pour être publié chez Mirobol,
il faut être étranger déjà, à la base.
Déjà.
Malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs français qui me demandent si, en mettant quelques mots comme ça étrangers dans leur manuscrit, ça peut passer. Mais non, je leur dis malheureusement, à part Guillaume Chérel, pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur éditorial, du moins, c'est pas possible. Donc, déjà, faut être étranger. Et ensuite, faut avoir quelque chose d'original, hein, que ce soit dans la plume, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans le territoire qu'on connaît pas forcément, donc dans la culture, que ce soit dans la façon de traiter les personnages ou la construction, ou voilà. Je décide de pas publier des livres qui pourraient sortir ailleurs ou qui pourraient être au catalogue d'autres maisons d'édition. Voilà, à partir du moment où je me dis que ça pourrait être ailleurs, c'est que c'est pas pour nous, en fait.
Et les affaires de famille, vous connaissez chez Mirobol parce que, par exemple, vous publiez Yana Wagner, qui est une auteure russe et qui a publié deux bouquins, c'est Vongo Zero et Le Lac, où c'est l'histoire d'une famille qui fuit une épidémie et qui se réfugie tout au nord de la Russie, pas loin de la frontière finlandaise. Mm-hmm. Et c'est l'histoire de la survie de cette petite famille et de quelques amis.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. La famille et quelques amis, la survie de sa survie, la sauvegarde de son existence physique, mais aussi la sauvegarde de son humanité, sa survie aussi en tant qu'être humain en fait. C'est surtout ça qui est questionné au-delà d'être un thriller un peu post-apocalyptique, très nerveux. C'est aussi une question, que je trouve vraiment de grande acuité sur la sauvegarde de sa propre humanité dans des circonstances, c'est vrai, assez extrêmes.
Oui, c'est ça. Dans Le Lac, on s'aperçoit qu'échapper au danger, c'est pas le plus dur. C'est après.
Oui, C'est ça. En fait, le danger, c'est les instincts peut-être de violence qu'on a en soi et ceux qu'on peut reconnaître en fait dans dans autrui et qui va, enfin qui peut tout faire basculer d'un moment à l'autre puisqu'on n'a pas le garde-fou qu'est la civilisation avec ses usages bien policés, avec ses règles, avec ses lois, etc. Donc tout est comme ça sur un fil et les relations humaines du coup peuvent peuvent devenir très explosives.
Et là, vous venez de publier un petit bijou qui s'appelle Avenue Nationale.
Ah oui.
De Jaroslav Rudis, qui est un auteur tchèque.
Oui.
Et qui parle en fait de... c'est un hooligan, c'est Van Damme, un hooligan qui raconte sa haine, sa violence, la société, enfin, tout ce qu'on côtoie tous les jours.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un hooligan. C'est tout à fait le mot, d'ailleurs, que j'ai cherché pendant plusieurs mois sans le trouver. Donc, merci.
Il fallait demander.
Oui, c'est ça. C'est le genre. Enfin, là, effectivement, le roman est. On sent que c'est quand même en République tchèque parce qu'il parle de la révolution de velours, parce qu'il parle. Mais c'est vrai que Van Damme, il pourrait être partout. C'est Van Damme, c'est quelqu'un qu'on a, qu'on peut croiser tous les jours dans sa rue. Voilà. Et d'ailleurs, on a tous en nous un petit côté Van Damme. Voilà, duquel on essaye évidemment de se défaire. Mais malheureusement, c'est vrai que. Voilà, en fait, moi j'ai voulu vraiment publier ce livre, hein, si vous me laissez juste 2 secondes,
oui.
Pour moi c'est pas, j'aime pas comme ça quand on segmente la population, les gentils, les méchants, ceux-là ils pensent bien, ils votent bien, ceux-là, et voilà. Je trouve que ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et c'est vraiment de se rendre compte que la lumière et l'obscurité, on l'a aussi à l'intérieur de soi et que c'est important justement de faire ce retour, de réfléchir, de comprendre aussi les mécanismes psychologiques qui peuvent amener à finalement aller mal dans sa tête. Et ce qui me touche beaucoup chez ce personnage de Van Damme, pour lequel malgré tout le lecteur peut ressentir une forme d'empathie, et c'est ce qui est très très fort dans ce texte-là, c'est que ce personnage de Van Damme a été extrêmement touché par son père, et donc c'est cette figure paternelle en fait qui va faire qu'il va être en recherche d'autorité, de virilité, et que donc politiquement, même s'il n'a pas une idéologie très structurée, parce qu'il n'appartient pas à des partis ni quoi que ce soit, il ne sait même pas, enfin il ne parle pas du tout de politique à proprement parler, mais on sent qu'il en recherche, voilà, de politique, un peu d'autorité et de donc en fait c'est ça que je trouve vraiment vraiment très touchant et j'ai trouvé que c'est un texte extrêmement fort qui parle vraiment de l'Europe d'aujourd'hui en fait.
Ah, il parle pas de politique mais enfin il dit quand même qu'Adolf Hitler l'a pas trop sauvé quoi.
Oui, tout à fait, mais il mélange, on voit bien dans sa tête, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit bien qu'il mélange un petit peu les références.
Ah, c'est pas clair clair oui.
C'est là lui. C'est ça, il mélange les Romains, les voilà, il est. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas vraiment politique. C'est-à-dire pour lui, ce qui s'est passé il y a 1000 ans ou 2000 ans en Europe est aussi important dans sa tête que ce qui s'est passé il y a 40 ans avec Adolf Hitler. Donc en fait, il n'est pas. Il mélange vraiment tout. En fait, il a une idéologie qui est très, je sais pas, qui est très labile, qui est très, qui glisse comme ça. Il passe d'une référence à un autre. Il ne sait plus trop où il habite en fait.
Bah en fait, pour résumer, pour moi, c'est un petit peu un électeur de Sanders qui a voté Trump.
Oui, c'est probablement ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est pour ça que je trouve ça en plus très, 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 très actuel, ce livre. Mais tout à fait, bien sûr. Oui, on sent bien l'appel du populisme derrière. Et pourtant, on sent en même temps que c'est une personne qui est cultivée, à qui, je pense, il manque, cela dit, juste un fusible dans sa tête. Mais c'est une personne qui est véritablement cultivée. Je pense qu'il est vraiment fan d'histoire, comme l'est d'ailleurs l'auteur Jaroslav Rudis. Et c'est ça aussi qui rend son personnage et du coup les propos qu'il tient dans le livre aussi complexes.
Et qu'est-ce qui va nous arriver chez Mirobol bientôt alors ?
Alors chez Mirobol, ça va être un petit peu le début d'année sera un petit peu difficile pour les lecteurs puisque en janvier nous publions un recueil de contes horrifiques suédois d'un auteur très complètement culte en Suède qui s'appelle Anders Fager. Il faut vraiment retenir son nom parce que c'est des recueils de nouvelles qui sont vraiment construits comme des symphonies. Chaque nouvelle fait référence à une autre nouvelle et c'est comme ça des personnages qui sont tirés de contes fantastiques et qui reviennent en fait dans le présent de la Suède, dans le présent de Stockholm, dans le présent de... Voilà, et on croise comme ça des souvenirs de loups-garous, d'aliens, du blob, voilà, et c'est magnifiquement écrit. Voilà, on est très très fiers de publier cet auteur, et ensuite nous lançons une nouvelle collection qui s'appelle Horizon Blanc, qui est dédié à la littérature générale, entre guillemets, mais toujours avec une tonalité un petit peu noire, comme on aime chez Mirobol, en fait.
Eh ben, ça tombe rudement bien parce qu'on va se quitter avec un titre que j'ai piqué chez Inger Wolf dans Mauvaises Eaux.
Oui.
Et c'est Rammstein, c'est Zone. Et dans Zone, justement, il y a Blanche-Neige dans le clip. Donc ça tombe rudement bien, ça tombe pile poil. Je ne le savais
parfait.
Pas, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
merci,
Sophie de la Marlière.
Merci beaucoup. Merci.
Bon après-midi, à bientôt.
Au revoir. Nine.
Et voilà, c'est fini. Vous avez de quoi lire jusqu'à la prochaine émission et même un peu plus. On se retrouve bien sûr au mois de décembre, juste avant les fêtes. Ciao, bye bye.